Ben ouais, c'est ça. Mais c'est pas juste pour mesurer 90 autour des fesses que j'ai hâte que les restos ouvrent, Alexis. Tu sauras.
Ah, OK.
Pas non, juste à cause de ça.
C'est correct, c'est correct.
Mais effectivement, si je pouvais, ça me dérangerait pas. C'est bon. mais non, il y a des enjeux quand même très intéressants et assez sérieux même parce que ça va, pour vous donner l'exemple, ça va de nos producteurs, que ce soit de porc, de bœuf, de poulet, mais aussi ça va jusqu'aux patates, là, tu sais, à un moment donné, les producteurs de patates nous disaient « Mangez des patates, là, parce que des restos, ça sert beaucoup de frites, puis on va plus des restos, on mange plus de frites. » Mais il y a un auditeur qui nous écrit, il dit « Moi, regarde, j'ai une entreprise de nettoyage de hottes industrielles, des hottes de restaurants. » Il m'a dit « Ça travaille pas fort ces temps-ci. » C'est tout ça qui est affecté par le fait que les restaurants sont encore fermés en ce contexte de crise. Encore là, si on voulait les rouvrir, comment devrait-on faire pour assurer la sécurité de tout le monde, autant des clients que des employés? Ben, on va brainstormer un peu ce matin avec François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Monsieur Meunier, bonjour.
Bonjour, vous tous.
Déjà, j'aimerais qu'on commence la discussion sur qu'on parle sur les mêmes bases. Il y a certains chiffres qui sont assez épeurants, qui font état du quart, du tiers, même voire presque de la moitié des restaurants qui pourraient ne pas survivre à la crise présentement. C'est quoi l'état de la situation au moment où on se parle?
Ben, l'état de la situation, je pense, j'ai pas besoin de faire un grain ben gros dessin, là. Les salles à manger sont fermées depuis 9 semaines maintenant, là. Et, essentiellement, au Québec, on a des restaurants avec des salles à manger. C'est certain que oui, il y en a qui ont réussi à se maintenir la tête hors de l'eau avec le prêt à manger. Il y en a qui ont fait énormément, ont eu un grand succès avec ça, mais au total, là, rappelez-vous quelque chose, là, à peine 30% des ventes habituelles sont faites présentement dans l'industrie. Là. Il y a 14 milliards de dollars de ventes qui sont faites chaque année dans tous les restaurants du Québec. Puis c'est pas vrai qu'on peut récupérer ces 14 milliards de dollars de ventes-là juste avec le take-out et la livraison. Là. Donc, effectivement, si la crise perdure, si on ouvre pas bientôt les salles à manger, ben on va fragiliser encore davantage les gens qui sont extrêmement fragiles. Et s'il y a rien qui ouvre, si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui pendant 6 mois, ben on pourrait voir disparaître 60% des restaurateurs. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est un sondage qu'on fait auprès de 1217 gestionnaires de la restauration qui, évidemment, s'inquiètent de la situation et c'est tout à fait normal. Mais qui sont résilients, qui sont courageux, qui sont innovateurs, qui sont impatients de réouvrir, mais on veut le faire comme il faut. Parce que il n'y aurait rien de pire dans notre industrie de finalement réouvrir les salles à manger et de devoir reculer quelques semaines après parce que finalement on fait pas les choses adéquatement.
Alors comment on fait ça comme il faut, là? Parce qu'il y a des affaires aussi qui peuvent sembler aussi farfelues que ce qu'on a vu sur Internet des endroits en Europe où il y avait on donnait des chapeaux avec des frites de piscine aux clients sur les terrasses, mais sans blague, parce que moi je parlais avec des amis restaurateurs qui me disaient parce qu'au début de la crise on autorisait juste 50% des salles à manger, ils me disaient ben c'est bien, on va rester ouvert. C'est sûr, s'ils nous autorisent 50%, mais on n'est pas rentable à 50% de la salle à manger.
Non, la plupart des gens d'ailleurs disent qu'ils ne sont pas rentables à 50%. En fait, on augmente de beaucoup là, dans le sondage le niveau de rentabilité si on monte à 75%. Mais il faut être réaliste. Là. La pandémie est encore là. La distanciation physique, là, c'est quelque chose qui est là pour rester probablement encore plusieurs mois. Sinon, au moins pour une année, ou peut-être même, certains disent, jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça va compliquer un peu les choses. Et c'est certain que l'expérience en restaurant ne sera pas la même si, finalement, on doit être à 2 mètres des autres clients et que les employés doivent être à 2 mètres un de l'autre. Donc, regardez un peu ce que vous voyez dans le commerce de détail présentement, c'est-à-dire soit des barrières physiques, si on n'est pas capable de respecter le 2 mètres. C'est certain qu'il va y avoir de la signalisation, c'est certain qu'il va y avoir une gestion des files d'attente, c'est certain qu'il va y avoir une limitation de capacité, surtout au début. Mais finalement, si la situation s'améliore, peut-être qu'on pourra augmenter la capacité en cours de route. Mais les restaurateurs vont être prêts. On est déjà au travail avec la santé publique et avec la CNSST pour qu'on réalise adéquatement un guide des normes sanitaires pour notre secteur. Et on n'est même pas en train de parler de date. Pour nous, ce qu'on veut, c'est un plan de réouverture qui est planifié dans le temps. On puisse un peu avoir un horizon, parce que vous savez, un restaurant, c'est pas un magasin de chaussures, là.
Ah non.
Les souliers sont pas sur une tablette, ils attendent que j'ouvre la porte puis que je les vende à des clients.
Non, puis mettre du désinfectant sur une paire de souliers, c'est pas pire, mais mettre ça sur un mac and cheese, par exemple, c'est assez moyen.
Il faut que j'achète la nourriture, là. La faim, vous l'avez expliqué tantôt, tout l'écosystème, l'approvisionnement alimentaire là, a été complètement reviré à l'envers. Complètement. Il y a des distributeurs alimentaires, des transformateurs, des gens dans l'agneau, par exemple, leur principal marché dans l'agneau au Québec, c'était la restauration.
C'est ça, mais
oui. Ils se sont retrouvés là, avec plein de bêtes, pas capables de les distribuer dans le détail. Ils sont pas habitués d'aller faire affaire avec les grandes chaînes. Mais là, nous, on va revenir en vie, là, et on va pouvoir avoir cet agneau-là. On va pouvoir avoir effectivement les patates pour faire des frites. Et voir que tout le monde serait juste. Fait que c'est pas, on fait pas ça dans un claquement de doigts. Non, il faut être capable d'avoir plusieurs jours. Quand on regarde le Nouveau-Brunswick qui a rouvert cette semaine, là, ça a pris au moins 10 jours avant que la chaîne d'approvisionnement se mette en place. En fait, on n'est pas encore dedans. Elle n'est pas tout à fait au point présentement. Donc, il faut tenir tout ça en considération. Mais c'est certain qu'on va être prêt. On comprend que les gens sont impatients. Tout le monde a envie, finalement, de ressortir. Mais il va falloir aussi que et les consommateurs fassent preuve de compréhension parce que ça sera peut-être... Et pour nous, c'est important. Là, d'ailleurs, la principale inquiétude des restaurateurs, c'est est-ce que les gens vont revenir en salle à manger? Et ça reste un inconnu à ce moment-ci.
C'est sûr.
Évidemment, tout ça va être variable. Là. Il y a probablement des régions aujourd'hui au Québec là, où les gens sont tout à fait en confiance et pourront reprendre leur activité normalement ou presque. Mais à Montréal, on s'entend qu'il y a encore de l'inquiétude à cause du fait que la crise n'est pas si tant contrôlée que ça.
Est-ce que vous tenez pour acquis que plus jamais les restaurants, peu importe le type de restaurant, ça va revenir comme avant, puis que de toute façon, ça va prendre des ajustements, peu importe le type d'ajustement, selon le type de restauration, etc.
Plus jamais, je pense pas. J'espère que non. Moi, j'espère que... dans un horizon là raisonnable, là. Mettons 2 ans, on va peut-être pouvoir revoir une salle à manger de restaurant bondée et finalement tout le monde apprécier l'ambiance, pouvoir fraterniser, socialiser. D'ailleurs, c'est un peu ça qui nous a un peu tout le monde mis sous le choc, là, c'est que la restauration, c'est pas juste aller manger, c'est un geste de socialisation aussi.
Non, ouais, c'est une expérience.
Exact. On va aussi pour célébrer un événement heureux. On sort avec sa blonde, on sort avec son chum, on sort avec ses chums. On va écouter une partie d'hockey. C'est beaucoup plus que uniquement s'asseoir à une table et mettre un aliment dans sa bouche. Mmh. Et c'est ça qui est un peu bouleverse un peu les pensées de tout le monde, c'est est-ce qu'on va être capable de revivre ça sans penser qu'on va finalement aller s'asseoir dans une cafétéria d'hôpital quand on va aller dans un restaurant? Et c'est ça qu'on veut pas. Et c'est ça que personne veut. Donc, il faut s'assurer d'avoir un juste équilibre entre les règles de santé publique et de pouvoir s'assurer de faire vivre à la clientèle une expérience.
Je disais que l'Union des tenanciers de bar du Québec a lancé une pétition. Là, je regardais ça, il y a quand même plus de 15 000 personnes qui ont signé la pétition. Eux, ils demandent la réouverture des bars et des restos-bars pour le 1er juin. Vous pensez quoi de cet échéancier-là? C'est quand même dans une semaine?
Là? Ben non, mais écoutez, les gens peuvent faire des pétitions comme ils veulent. C'est pas des pétitions qui vont changer quoi que ce soit à ce moment-ci.
C'est ça.
Je dis tout le temps qu'il y a probablement même qu'une recherche à Rouda, c'est même pas à quelle date les restaurants vont ouvrir. Alors, je pense que le gouvernement a fait preuve de prudence. Il va, on y va graduellement, on y va étape par étape. Et les endroits qui sont automatiquement des rassemblements, comme un restaurant à l'intérieur notamment, évidemment, doivent être évalués, la session doit être évaluée différemment que dans un salon de coiffure où finalement tu peux peut-être juste être 4 dans le local. Mmh. Parce qu'il ne faut pas non plus trop pousser. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont nous autoriser, mais ils vont faire comme par exemple au Connecticut où c'est maximum 25%. Moi, s'il m'arrive avec 25% de mes matins de capacité, là, vous êtes aussi bien de me dire de ne pas réouvrir.
Mais il n'y a pas un restaurant qui va ouvrir à 25%.
Puis, ou d'autres qui nous disent, ben là, vous voyez là, les rassemblements, c'est 10 personnes. Alors, ils pourraient très bien dire aussi la capacité dans un restaurant. Ça a bien beau être 50% de votre capacité, mais vous ne pouvez pas être plus que 25 dans la même pièce, ou en tout cas dans le même local. C'est pas mieux ça non plus. Donc, moi, je ne suis pas un expert en santé publique. J'ai pas la capacité d'imposer quoi que ce soit au gouvernement. On va s'assurer par contre que les normes qui vont être mises en place sont adéquates et qui vont à la fois respecter les conditions d'exploitation adéquates d'un restaurant et les normes de santé.
Je voyais que aux États-Unis, il y a un phénomène que certains clients ont commencé à avoir, c'est une espèce de surtaxe, là, ou une taxe supplémentaire pour pallier aux pertes des revenus par la situation financière difficile des restaurants. Pensez-vous, comme client, c'est quelque chose qu'on pourrait voir éventuellement si les restos d'abord déjà viennent qu'à rouvrir, mais aussi sur ce qui est pour emporter et autres?
Ben, regardez, faut quand même pas se mettre la tête dans le sable, là. Il va y avoir un impact sur les coûts. Juste les frais fixes, là, on n'est pas capable de supporter les frais fixes avec une salle à manger exploitée à 50%, ça c'est dans le meilleur des cas. Les prix des aliments ne seraient pas si pires. Par contre, les coûts de main-d'œuvre vont augmenter. Il y a une pression juste avec la PCU étudiant. Regardez, ça va être difficile d'attirer des travailleurs avec les salaires comme on l'avait auparavant. Juste au niveau des travailleurs à pourboire, ben, ils vont avoir probablement beaucoup moins de clients, ça va être beaucoup moins payant en pourboire. Donc, il va avoir un impact, c'est certain. Mais de là à faire comme en Colombie-Britannique, quelqu'un qui a mis une taxe COVID, là, je sais bien qu'en marketing, ils ont dit parlez-en bien, parlez-en mal, mais je pense que il y a des gens qui courent après le trouble. Ouais. Parce que présentement, est-ce que moi je suis pas sur la même planète? Là? Tout le monde a gardé les mêmes revenus discrétionnaires. Là. Je suis pas convaincu. Il y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi, qui sont finalement sur les programmes gouvernementaux présentement. Alors, si on dit à ces gens-là, bienvenue au restaurant, mais ça vous coûte 25% plus cher, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont rester chez eux.
C'est ça, ils viendront pas. Ben, j'aime beaucoup votre lucidité. Merci beaucoup, M. Meunier, de nous avoir accordé quelques minutes ce matin.
Ben, bonne journée à tous, merci.
Bonne journée puis bonne chance. En souhaitant tous la réouverture des restaurants en temps et lieu et de la façon appropriée. François Meunier est vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Puis, tu sais, la fameuse surtaxe, là, quelque part, là, c'est quoi? Moi, je pense que c'est une erreur marketing d'un sens. Parce que, mettons, tu charges, je sais pas moi, 10% de plus, là. C'est une taxe de 10%. C'est quand même pas rien, 10%.
Mais non.
Puis tu rajoutes un 10% de plus à la facture totale parce que ça va tellement mal dans ton resto puis t'as peur de fermer que tu te dis j'ai pas le choix, faut que je charge ça à mes clients pour essayer de me garder la tête en dehors de l'eau. Entre vous puis moi, là. Tu le mets sur le prix de l'assiette, tu le mets pas. Tu gonfles les prix de tes assiettes, cache-les un peu, ta taxe. T'écris pas sa facture sur taxe COVID 10% 20$.
Il y a des chances que les gens retournent pas après. Là.
Ben, c'est sûr. Mais si les prix ont monté un peu, le pire, là, c'est que tu la caches pas nécessairement. Tu sais, moi, il y a des restos où je vais régulièrement, là, puis les prix, je commence à les connaître. Là. Puis c'est sûr que si... Regarde, je vais te donner un exemple très concret. Un resto où je vais souvent, ils ont commencé à faire affaire avec Uber Eats. Là. Mm-hmm. Ça fait que là, ben, les livreurs Uber vont chercher la bouffe dans leur resto, puis ils vont la livrer. Sauf que Uber, eux autres, comment ils fonctionnent, c'est que si ton resto, il fait affaire avec eux, eux autres, ils se prennent une cote sur le prix de l'assiette. En plus de charger 5$ de frais au client.
Pour la livraison.
Fait que, mettons, on a une affaire qui coûterait 10$, eux autres, ils vont se prendre, je pense, 5%. Ou, tu sais, ils se prennent une cote. Là, le resto, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, là, nous autres, on veut bien, là, que l'Uber, ils livrent notre bouffe, mais on n'a pas tant besoin de la livraison, mais on n'est pas prêt à leur donner une cote sur les repas qu'on vend, parce que là, on devient presque pas rentable par assiette, tu sais, vu que le seuil de rentabilité, c'est à peu près ça, tu sais, 5% dans un restaurant. Fait que, la marge bénéficiaire, c'est-à-dire, ça fait qu'ils ont fait, ben, on va monter les prix. Mais moi, je l'ai vu, là. Je le sais, quand je commande par Uber, ça me coûte plus cher que si je vais au resto. Mm-hmm. Mais genre, je suis conscient de ça, je le sais pourquoi c'est comme ça. Puis comme client, ben, des fois, je décide de m'en faire livrer pareil, puis des fois, je décide de pas m'en faire livrer.
Mais sinon, tu pourrais y aller toi-même.
Tu pourrais aller le chercher, puis ça coûterait moins cher. Mais tu sais, donc, tu le mets dans le prix de ton assiette. Puis si les gens, ils remarquent, puis quand les restos vont rouvrir, là, puis on va constater que, ah, me semble telle assiette dans ce resto-là est un petit peu moins chère. Ben, les chances sont que le monde, ils se disent, ouais, ben, tu sais, c'est normal, ils ont monté un peu le prix parce que ça va mal. Tandis que si t'as une taxe à la fin, après à TPS, après à TVQ, puis c'est écrit taxe COVID, ben, semble que ça passe un peu moins bien, pourtant, c'est le même montant. Dans un cas comme dans l'autre, tu l'as pas caché, finalement, même si tu l'as mis dans le prix de ton assiette. Mais, mettons que ça se digère un peu mieux, t'as pas que tu digères, restaurant. On prend une pause.
On va digérer ça pendant la pause.
On va digérer ça pendant la pause.
Que Québec se lève.
De retour après la pause.